grosse maladresse.
Pis l'autre, là!
Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Pis l'autre, là.
Alors?
Cette semaine, on revient à la finale de notre trilogie sur les jeux de rôle. Mais avant d'embarquer dans le sujet, je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner le film Killer Clown from Outer Space et aussi le livre Oneria de Patrick Sénécal. Comment participer? Vous allez sur iTunes, vous mettez des étoiles, vous écrivez un commentaire, vous prenez un screenshot et vous envoyez ça à l'adresse courriel La Grosse Maladresse en un seul mot à commercial@gmail.com. Donc, en date de l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai maintenant deux participants. Donc, pour l'instant, c'est 50% des chances que vous avez de gagner. Donc, c'est ça. Inscrivez-vous. Et on revient au sujet du jour. Donc, cette fois-ci, on va parler de la création de campagne. Après avoir créé un univers, après avoir créé un personnage, maintenant, on embarque dans la campagne. Et bien sûr, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider parce que je ne suis pas un master, je ne suis qu'un joueur, simple petit joueur. Et on va poser à notre invité la question qui tue.
Salut, moi je suis une patate cosmique.
Une patate cosmique?
Ouais, so je suis une patate qui flotte dans l'espace. Mais tu peux aussi m'appeler Yannick.
OK. Donc, Yannick, la patate qui flotte dans l'espace.
C'est moi.
Est-ce que ça vient avec des super pouvoirs, ça?
Malheureusement, non. À part que je peux faire des vraiment bonnes frites.
OK. Mais si tu fais des frites, ça ne veut pas dire que tu vas comme mourir parce que tu vas comme utiliser ton corps pour faire des frites?
Ouais, mais c'est des frites. C'est vraiment bon. C'est comme, okay. It's worth the sacrifice.
Mais si t'es une patate cosmique et tu manges des frites, est-ce que c'est du cannibalisme?
Absolument.
OK.
Oui, j'encourage le cannibalisme. Donc,
Ça, record. Ça va clairement être ça, l'extrait de TikTok. Et donc, écoute, tu es ici cette semaine pour nous parler de campagne pour les jeux de rôle et les RPG, comme on aime bien dire, au Québec. C'est bien ça?
Oui, donc les jeux sur table, en tant que tel, je suis un maître de jeu. Les jeux sur table sur lesquels on joue notre gang ensemble, ce n'est pas des jeux sur table qui existent déjà, dans le sens que ce n'est pas des D&D, ce n'est pas des Warhammer, c'est vraiment des jeux de table qui sont faits de fond et en comble à la maison.
Sont faits à la bonne franquette.
À la bonne franquette, c'est ça.
Et donc, toi, bon, on va se dire, t'es le master de mon groupe de D&D depuis quand même quelques temps. Tu as déjà fait plusieurs games différentes dans différents univers et différents types de campagnes quand même pour chacune des games.
Ouais.
Donc, c'est ça qui donne le pouvoir d'avoir le droit d'en parler aujourd'hui.
C'est ça. Donc, à cause que je suis maître de jeu de rôle, ben, je peux parler de jeu de rôle.
Puis moi, ben, je peux parler de rien. En tout cas, bref. Mais donc, on va y aller tout de suite dans le sujet. Écoute, avant de commencer à générer ta campagne, là, avant de commencer à penser à ta campagne elle-même, c'est quoi les éléments que tu as besoin de savoir et les éléments que tu as besoin pour pouvoir commencer à travailler dessus là, concrètement?
Ça, c'est vraiment bonne question. Prends les interlocuteurs. C'est-tu ça le mot? Ceux qui regardent? Interlocuteur?
Interlocuteur? Ben non, interlocuteur, c'est une personne qui te parle. Les auditeurs vont être ceux qui vont regarder.
C'est ça.
Tu peux dire... Moi, je les appelle mes maladreuses. Fait que si tu veux les appeler les maladreuses, tu peux.
Cute. OK, fait que t'es maladreuse. Ils ont prêt à écouter les premiers et le deuxième épisode. S'ils ne l'ont pas déjà fait, je les encourage fortement à aller les écouter ainsi que tous les autres épisodes parce qu'ils sont tous vraiment bons. Qu'importe. Ceci dit.
Le plus ironique, c'est dit par quelqu'un qui n'écoute même pas mes podcasts.
T'sais. OK, d'accord. En tout cas, fait que pour qu'est-ce qui arrive, c'est que pour les jeux de rôle, dans le fond, comment que ça fonctionne pour la création, c'est que souvent ça vient à travers une inspiration qui est souvent juste un concept. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de concret, ça peut être un thème. Ça peut être une situation qu'on a vécue dans la vraie vie, un film qu'on a regardé, puis on aime juste le vibe que ça nous donne. Puis après ça, on part à partir de ça. Notre imagination a tendance à juste aller dans n'importe quelle direction. Imaginez comme, tu sais, quand vous êtes dans une situation où que, genre, il y a quelque chose qui vous rend comme mal à l'aise, puis là, vous commencez à overthink, tu sais, votre cerveau commence à juste réfléchir pour rien. Mais c'est la même chose, mais avec de l'imagination puis des choses fun. Comme ton cerveau commence à penser à plein de choses qui ne vont jamais arriver, mais qui est vraiment intéressant puis fantaisique. Fait que c'est le même concept. T'sais, si vous faites du overthinking, vous êtes des maîtres de jeux de rôle,
Donc, si
certains.
vous êtes névrosé, vous avez déjà le
Oui.
background mental pour y arriver.
Exactement. Premièrement, de l'imagination. Deuxièmement, être névrosé. C'est vraiment les choses les plus importantes. C'est souvent comme ça que ça commence. Je vais, par exemple, regarder un animé. Puis, il y a quelque chose que j'aime à propos de l'animé. Et ça connecte tout de suite à, je pense, la chose la plus importante pour les jeux de rôle. Ça connecte tout de suite à mes joueurs. Fait que je vais voir une situation, puis je vais être comme, oh my God, je veux que mes joueurs vivent cette situation-là. Je veux voir comment qu'ils vont se sentir à travers ça. C'est vraiment l'émotion de qu'est-ce qu'on veut partager, puis etc. Puis ma façon de faire ça, c'est pour certaines personnes, ils vont faire sentir un auditeur, I guess,
Oui.
l'émotion, tout simplement en faisant, ben pas tout simplement, là, mais en faisant une image, en dessinant, en faisant une peinture, par exemple. Mais pour
OK.
moi, c'est à travers le storytelling, donc à travers faire une histoire avec, puis dire une histoire avec l'aide de mes joueurs. C'est comme ça que je les fais ressentir des choses. C'est une forme d'art, on pourrait dire.
Ben, c'est une forme d'art.
Ouais.
C'est comme écrire c'est comme écrire un livre ou peindre justement, mais dans ta tête.
Ouais. Toujours.
Puis d'embarquer tes joueurs dans ce monde-là aussi.
Oui, c'est sûr. Fait que ça, c'est comme ça que ça commence pour répondre à ta question, là, de façon plus directe.
Et normalement, j'imagine que tu as besoin d'avoir créé le monde dans lequel ça va se passer aussi.
Ouais, ben généralement pour le monde, c'est la création du monde, ça vient après ça. Comment tu expliques toutes ces imaginations-là que tu as? Il y a différentes façons de faire un monde, puis vous avez vraiment vu les différentes façons de chacun des maîtres de jeu dans les épisodes passés. Mais par exemple, je vais prendre moi. Souvent, mes mondes vont se baser sur qu'est-ce que mes personnages qui vont être dedans vont expérimenter. Fait que, tu sais, oui, je vais avoir une idée générale, par exemple, un thème, genre, je veux que ça soit futuristique, je veux que ça soit post-apocalyptique, etc. Puis là, après ça, je m'imagine les personnages, comment qu'ils vivent dans ce monde-là. Puis je regarde, je pense même Seb l'a décrit, là, je regarde une génération passée, comment que leurs parents ont vécu, puis après ça, comment que ça a affecté les personnages, puis après ça, comment qu'ils vivent avec tout ce bagage-là. Et en plus du monde, qui sont entourés d'eux, qui sont,
Oui.
en tout cas, dans lequel ils sont. Puis, veut, veut pas, c'est quelque chose qui fait comme une action-réaction où que ce personnage-là a eu ce type de trauma-là parce que quelque chose comme ça s'est passé. Donc, cette chose-là qui s'est passée fait partie du monde. C'est quelque chose qui peut arriver à d'autres personnes. Ça décrit le monde. C'est une genre de thème que le monde peut avoir, puis etc. Donc, après ça, je fais juste continuer comme ça, là, puis ça build un monde tout seul.
Et quand on crée une campagne, est-ce que rendu à cette étape-là, tu as déjà besoin de savoir ça va être quoi les personnages de tes joueurs ou est-ce que ça peut être quelque chose que tu crées avant et tu peux imbriquer tes joueurs dedans après?
Ça dépend du style de gameplay de chacun des maîtres de jeu. Moi, je te dirais, pour moi perso, je peux le faire sans mes joueurs. Puis après ça, les imbriquer dedans. Il y a, la plupart du monde le font comme ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent avoir les joueurs pour savoir où que ça s'en est. T'sais. Un exemple, pourquoi je dis que la plupart du monde sont capables de faire, ben pas qu'ils sont capables, mais qu'ils font ça en avance, c'est que qu'ils font leur campagne en avance avant même savoir les personnages, c'est que on va regarder dans les jeux de rôle comme D&D, ils viennent avec des séries de campagnes juste pour clarifier. Une campagne, c'est vraiment, dans le fond, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est les péripéties qui arrivent au personnage. Oui, je sais, je dis des mots,
Tu dis des beaux
wow!
mots.
Oui! C'est les péripéties et les défis que les personnages joueurs vont passer au travers afin d'atteindre un certain but. Je pense que je le décris bien.
Oui, c'est une très belle description.
Fait que ça, c'est, on pourrait dire, c'est la campagne, c'est qu'est-ce qui fait le jus de ta partie. C'est, tu sais, avant, quand on travaille dans les backgrounds, puis qu'on fait la conception du jeu, puis etc., ça, c'est avant même. La campagne, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au personnage, là. Qu'est-ce qui se passe en live, on pourrait dire, en moment présent, puis qu'est-ce que les personnages vont passer au travers.
Une seule game de D&D ou de jeu de rôle peut avoir plusieurs campagnes dans la même game à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, comme la façon qu'on va le séparer, c'est, puis ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde connaît si on jouait des jeux vidéo, c'est que tu vas avoir la campagne, mais tu vas avoir des quests, des quêtes à l'intérieur de la campagne qui va diriger ton personnage, encourager ton personnage dans certaines directions, même changer ton personnage en entièreté jusqu'à temps qu'il arrive à la fin de la campagne, qui est un but final habituellement. Donc, pour répondre à ta question, excuse-moi, quand je fais ma campagne, je la fais en prenant en considération qu'est-ce que je pense que mes joueurs vont jouer. Fait que c'est pas comme si vous étiez dedans, parce que je connais pas vos personnages du tout. Mais je m'imagine, si David fait un personnage dans mon monde, il va être comment? Puis qu'est-ce qu'il ferait? Puis genre, je lui donne pas trop d'informations, comme un personnage générique dans la plupart des jeux vidéo de rôle, là. Alors, on va prendre Cloud, ben là, il y a plein de background story, mais la plupart des personnages dans Final Fantasy sont des silent protagonists, des protagonistes silencieux.
Silencieux, oui. Je
Ouais.
sais pas comment, je connais pas le terme français. Je peux le
Ouais.
googler, par exemple. Ça m'a juste donné quelque chose. Non, ça me donne pas la traduction française. Ah, c'est ça, protagoniste silencieux.
OK, oui. Donc, c'est un peu comme si je faisais un équivalent de protagoniste silencieux pour chacun de mes joueurs. Fait que j'ai quatre joueurs, je leur donne tout un petit détail qui me fait penser à qu'est-ce que les joueurs pourraient jouer. Puis ensuite, je les introduis dans le jeu, ces personnages-là, que éventuellement, je vais les effacer puis les remplacer par les vrais personnages, puis rajouter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses, puis etc. Je fais la campagne en deux temps. Fait que oui, je la fais en premier ou que c'est comme mon bêta, on pourrait dire, ou
Le
alpha.
squelette, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Je fais mon squelette en premier. Puis après ça, je prends le même squelette, mais je rajoute des morceaux, je rajoute de la chair, du muscle, tout le kit qui fait que ça fait une campagne en entier qui fait du sens et qui a de la cohérence avec les personnages que vous allez jouer. Donc, c'est ça.
Fait que dans
Moi,
la
je.
conception, entre le moment de la conception puis le moment où ça se joue, il y a quand même beaucoup des changements qui se font.
Énormément, énormément. Souvent, tu sais, ça peut arriver même qu'un exemple, c'est j'ai fait une game basée sur le monde de Marvel. La campagne que j'avais initialement contre la campagne que j'avais après que vos personnages soient introduits à mon jeu était complètement différente. Tu sais, il y avait certaines choses que j'avais gardées. Surtout ce qui affectait certains des personnages, donc les personnages non jouables plutôt, mais ça a évolué vraiment énormément dans une autre direction basée sur les personnages que vous avez faits éventuellement, en effet.
Et quand tu crées des campagnes comme ça, est-ce que tu as déjà au début du jeu, au début du jeu, excuse-moi, est-ce qu'au début du jeu, tu as déjà une idée de qui ça va être ton main villain de tout, là, tu sais, genre ton vilain principal de la fin finale?
La chose, c'est que j'aime pas ça avoir un main villain. souvent, j'aime pas l'idée d'avoir un main villain parce que ça met beaucoup trop de pression sur ce villain-là. Parce que mon but pour qu'un villain devienne main, faut que tout le monde le déteste. Right? Mais si ça arrive souvent que je vais faire un villain que pour certaines personnes, ce qu'il fait, c'est pas que c'est pas mal, mais ça les affecte pas autant. Ça, tu sais, ils vont se battre contre lui parce que oui, il est inhérentement méchant, puis ce qu'il fait, c'est pas bien, puis c'est pour aider ses amis, mais pour le personnage joueur, ça l'affecte pas autant que, admettons, son collègue de jeu de rôle, que lui, ça affecte directement sa ligne directrice de son personnage. T'sais, ça affecte vraiment son histoire, qu'est-ce qui s'est passé à lui dans le passé, un PTSD, whatever. T'sais, puis ça arrive souvent, t'sais, même quand je fais un main villain, on pourrait dire que tout le monde, ça les affecte juste du fait parce que si on fait pas ça, ben c'est la fin du monde, par exemple. T'sais.
Ça garde ça simple et un peu cliché en parenthèse.
Ouais, mais pour que ça soit un main villain, faut que ça affecte vraiment personnellement le joueur, parce que là, il est pris dans un conflit à vouloir vraiment battre ce méchant villain pour des buts personnels. T'sais. Ça change complètement la psychologie de comment que le personnage va approcher les choses, puis ça les rend automatiquement impliqués dans tout ce qu'ils font dans la campagne.
OK. Donc, tu vas, non sans nécessairement chercher un main villain à la campagne, tu vas chercher quelque chose que tous les joueurs peuvent se rallier contre et qui va les affecter ensemble, que ce soit une entité, un groupe ou quelque chose.
Oui, c'est pour ça que la plupart de mes campagnes ont plus qu'un villain. Ça va être vraiment plusieurs différents groupes, plusieurs différents individus. Des fois, ça peut être juste un exemple, un lackey, qui est juste beaucoup plus investi dans le conflit avec les personnages jouables, que les personnages jouables veulent détester encore plus. Puis lui, c'est juste un lackey. Il travaille pour quelqu'un d'encore plus méchant que lui, là, techniquement. Mais c'est tout. C'est devenu que c'est lui le main villain. T'sais. Quand je vois que l'intérêt va là, je vais faire comme OK, ben lui, il va commencer à prendre le dessus du gros méchant. Puis peut-être leader toutes les autres. Puis soudainement, le lackey devient plus important juste parce que vous y donnez plus d'importance. Fait que it matters even more. T'sais, ça a plus de valeur quand vous allez jouer contre lui.
Fait que même tout au courant d'une game, la campagne n'est jamais vraiment coulée dans le béton. Le main villain n'est pas coulé dans le béton.
Non, exactement. S'il y a des affaires qui sont coulées dans le béton, je dirais, c'est vraiment quelque chose que j'ai mentionné plus tôt. L'émotion que je veux que les personnages jouables ressentent. Comme si c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est, tu sais, je buildais une histoire, OK, entre deux NPC, par exemple. Même si le personnage jouable n'est pas inclus dans cette histoire-là, ils vont se parler, etc. Peut-être ça va faire partie de la campagne, peut-être c'est une quête séparée. Mon but, c'est de savoir comment que. Mon but, c'est de faire ressentir quelque chose au personnage et au joueur. C'est comme quand une personne regarde un film.
OK. Avoir
Ou.
l'effet de catharsis, dans le fond.
Oui, voilà. Ou que
Moi
là,
aussi,
le.
je connais des beaux
Moi,
mots.
je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais waouh!
L'effet de catharsis, c'est quand, mettons, tu écoutes un film et que
Ouais.
tu te reconnais dans le film, que tu es capable d'extérioriser tes propres émotions et ton propre
Oui.
vécu à travers du film, du livre
Oui.
ou de l'art en question.
Oui. Exactement. Je vais faire un exemple avec un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Persona 5. Tu l'aimes beaucoup aussi. Persona 5 a des quêtes. OK, premièrement, on joue un protagoniste silencieux. Mais pour une raison obscure, je me suis attaché au protagoniste silencieux comme si c'était moi. J'ai fait. Ou comme si c'était un personnage qui avait vraiment beaucoup d'attitude, puis d'émotion, puis etc. Pourtant, il est vraiment blême. Tu sais,
Ben, je
il a du
pense que le
style.
Je pense que le fait qu'il soit blême comme c'est ça qui m'a permis à moi aussi de me reconnaître dans ce personnage-là, parce que tu t'imagines, toi, avoir vécu ce que tu as vécu, puis c'est comme ça donne plus de place à toi, genre, d'embarquer dans le jeu. Fait que je pense que c'est peut-être volontaire de garder un peu blême comme ça, là.
Oui, mais je vais te faire une comparaison avec un autre personnage qui est identique, Link, dans Zelda.
Ouais.
Et pourtant, je ne m'attache pas à Link, pas autant ou pas de la même façon.
OK.
Qu'est-ce qui arrive, c'est que la campagne dans, ou la quête dans Persona 5 fait tendance à faire des références de choses qu'on vit à tous les jours d'une perspective vraiment curieuse et intéressante. Tu t'attaches aux autres personnages, tu vois comment qu'ils interagissent, tu vis à travers eux, etc. Au point où que le jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo de Persona 5 t'affecte d'une façon personnelle. Tandis que l'histoire de Zelda, elle est excellente. Moi, j'aime full ça, Zelda. Je dis tout, je dis vraiment pas ça pour pas que tes fans viennent m'attaquer. Mais reste que l'histoire est à propos de sauver une princesse. Puis déjà là, tu sais, moi, je tripe plus sur les princes que les princesses, hein? Puis je préfère si la princesse est capable de sauver, ou le prince est capable de sauver lui-même, parce qu'on est tous très indépendants. Puis, tu sais, l'histoire fait juste pas, tu sais, c'est fantaisique, c'est cute, il y a plein de choses, plein d'éléments qui font que c'est un beau monde, mais ça reste que c'est pas une histoire qui est faite pour qu'on puisse se voir à travers, tu sais.
Ben, dans le fond, si je comprends ce que tu essayes d'expliquer, c'est que dans le monde de Zelda, oui, c'est un protagoniste silencieux, mais étant donné que les enjeux, les valeurs, la morale du jeu, c'est tellement fantastique, c'est tellement des choses qui n'existeraient pas dans notre monde que c'est plus difficile de s'imaginer être là, c'est plus difficile de s'attacher à ça. Qu'un jeu comme Persona où, tu sais, on parle dans ce jeu-là, ça parle d'agression, ça parle de bullying, ça parle de tout ça, tu sais, toutes des choses qu'on peut avoir vécues. Ça le ramène aussi dans un univers fantastique, mais ça a des sujets plus profonds, entre parenthèses, grosse
Non,
parenthèse, là.
non, je me suis mal exprimé. Ce que
OK.
j'essayais de dire, c'est plus que parce que ça n'a rien à voir le fait, comme Zelda, ça aurait pu être des enjeux similaires qui se passent à l'intérieur, mais version fantaisique, que je m'attacherais peut-être pas autant à Link que à Joker dans Persona 5. Je pense que la différence, c'est vraiment comment que c'est apporté ou que quand les personnes qui ont fait l'histoire de Persona 5 voulaient faire que les joueurs se ressentent d'une certaine manière. C'est ça le role-playing. C'est ça le RP des
OK.
role-playing games. Tandis que pour Zelda, c'est un action-adventure. Le but, c'est pas de faire nécessairement le joueur ressentir quelque chose autant. C'est pas de faire que on se voit à travers Link. On peut ressentir certaines choses. Un exemple, c'est Breath of the Wild. La plupart du monde l'ont joué, mais il y a une scène, fait, c'est peut-être mini spoilers alert, mais il y a une scène où qu'on voit Zelda se battre contre plusieurs robots à l'aide de Link, puis on les voit se réunir après, à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, puis c'est venu me chercher à l'intérieur. Le monde est joli, il est beau, il est fantastique, puis cette situation-là fait juste comme tout ramener ça ensemble, c'est bien fait, j'adore, il y a une belle histoire, puis j'ai ressenti quelque chose, mais pas en tant que Yannick à travers Link, plus en tant que Yannick qui voit Link ressentir ça.
OK,
C'est
il y
pas
avait
mon.
comme un mur, pas un mur, mais il y avait une distance entre ce qui se passait et ce que tu ressentais
Voilà.
nécessairement. OK.
Exactement. Moi, je veux briser ce mur-là dans les games de D&D, où que je veux que le joueur ressente quelque chose et que le personnage ressente quelque chose. C'est ça la partie role-play des role-playing games. C'est vraiment que t'es dans une situation, puis peut-être le joueur va être extrêmement calme, mais ça va faire du sens que le personnage soit fâché. Ou d'autres situations que le joueur va être vraiment fâché. Mais dans cette situation-là, faut qu'il joue son personnage calme parce que c'est sa personnalité. Je veux juste qu'il y ait une genre de dynamique constante entre les deux alter ego, les deux
Ouais.
personas qui jouent la partie.
Entre le
C'est ce qui.
joueur et son personnage.
parce que c'est vraiment ce qui fait évoluer la campagne le plus rapidement et le plus. C'est quoi le mot là, quand on est dans quelque chose là? Immersivement?
Immersivement,
Ouais.
oui, quand on est
Ouais,
immersé, oui.
ouais. Fait que d'une façon vraiment immersive.
Immersive.
Immersive. C'est chaud.
Ça se conjugue au féminin puis au masculin, genre immersif, immersive.
Ah, ok. D'accord.
Donc, oui, excuse-moi. Donc, à ce moment-là, tu as commencé à créer ton squelette, tu as commencé à créer tout ça. Là, tu as une idée de c'est quoi les personnages que tes joueurs vont jouer. OK? À quel point est-ce que la campagne principale avec laquelle tu es parti est immuable et à quel point tu te donnes le droit de la modifier?
Ben, pour la modification, ça, c'est sûr, ça reste que tu sais, faut jamais être fixe lorsque ça vient être un joueur un maître de jeu de rôle parce que on fait du moment qu'on fait affaire avec un autre être humain, rien n'est garanti. On peut pas se lire les pensées l'un à l'autre, donc on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Faut tout le temps être en changement. Puis c'est ça qui fait que c'est super beau, les interactions entre êtres humains. So, la même chose s'applique pour les jeux de rôle. T'sais. Quand je fais une campagne, il faut que je sois en mesure de pouvoir la changer. C'est sûr que faut que ça fasse du sens avec le monde, mais ça vient de façon naturelle. T'sais, je ne vais pas faire une campagne qui se passe genre. Même que là, ça pourrait être sujet à. J'allais dire, tu sais, ça pourrait pas se passer dans un monde fantastique, dans le passé, etc. Puis là, ça finit dans l'espace. Mais on sait jamais, tu sais, c'est possible, on a tout vu, là.
Ouais.
Rien n'est impossible. Mais, tu sais, ça reste qu'il faut que ça reste dans comment dire, l'esprit de qui fait du sens dans ce monde-là.
Il faut pas que ça vienne out of nowhere, genre de voyons qu'est-ce qui se passe tout d'un coup, genre.
Ouais,
Faut que
exactement.
ça fasse du sens.
Ouais, exactement.
Et à ce moment-là, quand tu fais une campagne, à quel point est-ce que tu dois prévoir des différentes possibilités?
Oh, tout le temps. Puis je pense que c'est la chose que je préfère faire aussi. So, ce qui arrive, c'est que quand tu fais une campagne, généralement, il y a quelques éléments qui sont très importants. So, un élément qui est important, c'est le mystère. Faut qu'il y ait énormément de mystère dans ta campagne parce que si tu reveals, si tu montres tout ce qui se passe, si les joueurs comprennent exactement qu'est-ce qui va se passer, si il y a une attente, on perd le beat. On va comparer ça à ben, n'importe quel TV show, right? N'importe quelle série TV, on va écouter, puis on sait exactement qu'est-ce qui va se passer au personnage principal. Ben, automatiquement, les épisodes ils se ressentent comme si c'était une perte de temps. On passe 20 minutes à savoir qu'est-ce qui va se passer l'épisode prochain, puis là, l'épisode prochain, ça se passe, puis là, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer l'épisode prochain, puis on est comme, OK, ça s'en va où? Puis on veut pas que nos joueurs se sentent comme ça. Si nos joueurs commencent une partie, se mettent à jouer, puis etc., puis ils se rendent compte que ils sont capables de savoir où que ça s'en va, story-wise, ils n'ont pas autant d'excitement à passer au travers, ils vont juste attendre que ça se passe pour pouvoir passer à quelque chose de plus intéressant, plus mystérieux, plus curieux. Fait que c'est vraiment de garder ce mystère-là vivant tout au long de la campagne, ou at least le plus longtemps, ou de façon le plus intéressante possible.
Mais est-ce que le contraire est aussi vrai si c'est trop mystérieux, s'il n'y a pas assez d'indices, si c'est trop genre que tes joueurs comprennent vraiment pas ce qui se passe et tout ça, est-ce que ça peut avoir l'effet contraire ou ça va les décourager?
Ben, il faut faire la différence entre être mystérieux puis faire de la confusion. C'est pas la même chose, right? Si les joueurs sont confus, c'est que tu fais you're not doing mystery, right? Si les joueurs sont confus puis ils sont pas capables de faire une série de logical assessment, de comment on dirait ça?
Logical assessment, correct.
Ouais, une série de logiques dans leur pensée. ça, puis ça amène à rien, ils vont se tanner aussi. C'est comme je te donne un problème mathématique, puis tu n'es pas capable de le régler, puis je te donne pas de solution, tu vas te tanner, puis tu vas juste le mettre de côté, puis faire des choses plus simples. Fait que si, fait que le but, c'est pas que ça soit compliqué, le but, c'est que ça soit mystérieux. C'est là la différence.
Donc, c'est pas un dessin à colorier qui a déjà toutes les lignes, mais c'est pas genre une équation physique quantique non plus.
Voilà, exactement. Puis même, tu sais, des fois, en tant que maître de jeu, ça sonne étrange, mais je me garde du mystère pour moi aussi, dans le sens où qu'il y a beaucoup de choses que je vais expliquer, puis beaucoup de choses que je vais faire du sens avec. Mais il y a certaines affaires que des fois, j'ai pas pris le temps parce que, tu sais, on réfléchit à plein de choses, on a plein d'imagination, on met tout ça sur la table, puis des fois, j'ai juste pas eu pris le temps de réfléchir. Wait, pourquoi ça se passe? Tu sais, j'ai mis ça, je sais que c'était le fun, puis c'est intéressant, mais je sais même pas pourquoi ça se passe. C'est rare, mais ça arrive quand même, surtout quand on est plusieurs joueurs qui jouent ensemble. Ça a tendance à arriver plus souvent. Puis c'est correct. Mais je le laisse pas savoir à mes joueurs.
OK.
Pour moi, ça va être comme, ah, ben, je vais les laisser figure out. Puis là, ils se parlent entre eux en tant que joueurs, puis ils sont en train de faire des hypothèses, puis tout. Puis je suis comme, c'est toutes des bonnes idées jusqu'à temps que je trouve une hypothèse ou que je m'en fais une basée sur leur information qui rend ce mystère-là plus cohésif.
Fait que des fois, tu vas y aller avec ce que les joueurs ont discuté. Même toi, tu n'as pas nécessairement l'aboutissant de la question. Tu as juste une idée générale, genre.
Ouais. Ça peut. C'est rare, mais ça arrive aussi, là. Puis, je sais que j'ai déjà oublié. Honnêtement, j'ai oublié ta question. Je suis désolé. Ta question initiale,
Ma
c'était.
question initiale, c'était à quel point faut que tu prévoies les possibilités.
OK. Puis, c'est ça. Quand ça vient pour les possibilités, dans le fond, généralement, quand il va y avoir une situation que vous devez prendre une décision qui est vraiment importante, j'essaie de penser en avance, tu sais, mettons, il y a ça qui va se passer, il y a ça qui va se passer, OK. Puis là, il arrive à une situation que je comme, ben, il y a ça qui va se passer, mais les joueurs pourraient faire ça, ils pourraient faire ci, ils pourraient faire ça. Puis là, je suis en train de faire des branches, comme s'il fait cette décision-là, ça va amener à ça va changer ça. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que je me mets des patterns que je peux suivre après très facilement dans mes notes, qui fait que ça évolue organiquement le gameplay pour les joueurs. Donc, ils vont, et pour les personnages non jouables, ils vont réagir d'une façon comme, OK, un peu prédéterminée, mais qui va me permettre de justement avancer les choses sans faire de gros stops, tu sais.
Et
Voilà.
est-ce que t'aimes mieux quand la réaction de tes joueurs est prévisible ou quand au contraire, ça arrive dans quelque chose que tu n'avais pas prévu?
Les deux. J'aime ça quand c'est prévisible juste parce que je suis comme I knew it. Mais j'aime ça beaucoup quand j'aime ça beaucoup aussi quand c'est prévisible parce que ça me pousse justement à aller chercher quelque chose qui est plus personnalisé aux joueurs. Donc c'est là où que ça devient intéressant. C'est comme si j'avais pas autant besoin de faire la campagne que c'est plus les joueurs qui la fait eux-mêmes sans s'en
OK.
rendre compte.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver dans une situation au niveau de la campagne où tu es comme, oh shit, attends, là, j'ai besoin de 15 minutes pour réfléchir à ce qui va se passer parce que, attends, là, ce que tu viens de faire, c'est juste trop fucked up, genre.
Oui, puis souvent c'est juste ça peut arriver ou que c'est des situations que ça va changer drastiquement comment beaucoup de personnages vont réagir. Un exemple, on va dire, c'est tu jouais un personnage ou que c'était dans un monde post-apocalyptique, tu jouais un fan de l'arcade en tout cas, puis il y avait des zombies partout. Puis on a joué quand même très longtemps cette partie-là, puis on était avancé vraiment beaucoup. À un certain moment donné, les jou personnages jouables s'étaient séparés. Puis t'es parti à une quête pour chasser à travers, ben, retrouver ton chat.
Oui.
Puis ce qui t'a amené à un village qui était occupé par des enfants, puis c'est les enfants qui s'aidaient à survivre durant la zombie apocalypse. Mais un des enfants était tombé quelque part dans une pile de zombies. Et ton personnage était très, très, très altruistique. Il s'est lancé pour essayer de le sauver. Simplement, puis j'ai donné plusieurs opportunités pour t'en sortir, mais le joueur, le personnage lui-même ne pouvait pas arrêter. Ça faisait partie de sa personnalité. Puis il s'est fait mordre, dans le fond. Donc ça a changé vraiment la dynamique de la game, parce que là, c'est comme, ah, oh, un des joueurs va peut-être se transformer en zombie, tu sais. Donc voilà.
Donc ça l'a été, oui, effectivement, mon personnage refusait de laisser cet enfant mourir
Ouais.
à un point vraiment ultime, là. Ça a été, oui.
Puis
Mais
c'était
tu sais,
pas une.
on s'entend que le personnage qui fait une quête pour aller sauver son chat, tu t'attends quand même à ce que ce soit quelqu'un qui aime
Oui.
aider les gens, tu sais.
Ouais. Bah, c'est encore drôle. Il y a du monde qui préférait sauver leur chat que d'autres êtres humains.
Ah, il y a ça c'est
Ouais.
vrai.
Mais ça reste.
J'ai même un chandail
Oui.
ici, genre, qui dit I will throw you at a zombie to save my cat.
Oui, exactement. Mais tu sais, c'est justement, tu sais, c'est pas quelque chose que je trouvais impossible dans une game de zombies, que les joueurs se transforment pas en zombies. C'est juste que je m'attendais pas après autant de mois, de journées, de semaines qu'on a joué à cette partie-là, que ça arrive à ce moment-là, ou qu'on est vraiment avancé, ou qu'on a vraiment des statistiques meilleures dans notre page de personnage que on fail quelque chose comme ça. Façon de parler,
Ouais,
fail.
ben c'était ferme, mais très volontairement, là, comme
Oui.
mon personnage refusait de laisser cet enfant-là mourir. C'était,
Exactement.
ouais. Ben, c'est arrivé quelques fois, même avec Sébastien comme master, que j'ai troublé un peu, puis j'ai switché certaines trucs de place. Fait que je pense que je suis un joueur imprévisible.
Mais je pense que tout le monde a cette touche-là. C'est juste, ça dépend vraiment de la situation ou quand que ça va le faire, façon de parler. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, mettons, Luc, je peux penser, Luc, c'est un de nos joueurs. Je peux penser à certaines situations qui ont fait que ça l'a changé drastiquement ou que je m'en allais dans l'histoire aussi. Puis c'est tous les moments que ça arrive ou que il y a vraiment cette chose-là qu'on ne s'attend pas en tant que maître de jeu. Je remarque, peut-être c'est juste une drôle de coïncidence, mais je remarque c'est quand les joueurs sont vraiment in tune avec la personnalité de leur personnage. Ils savent exactement qu'est-ce que leur personnage veut faire dans une situation, puis ils vont le faire qu'importe.
Quand ils sont arrivés à une certaine fusion avec leur personnage, d'une certaine façon.
Ouais, exactement. Ou qu'ils comprennent que le personnage, il sait c'est quoi l'enjeu, puis il va quand même y aller contre genre leur système de survie, malgré que ils ont vraiment, t'sais, nous en tant que joueurs, on n'est pas dans une situation qu'on tombe dans une pile de zombies. T'sais, on est assis dans notre sofa, bien confortable. Mais ça reste qu'on veut pas que notre personnage meure.
Ben,
Mais quand.
moi, à ce moment-là, tu sais, le moment que tu as décrit, là, qui essayait de sauver la petite fille puis tout ça, j'étais prêt à, s'il faut que mon personnage meure pour la sauver, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de lui, et je me créerais un autre personnage pour continuer. Tu sais, c'était à ce point-là que j'étais rendu. Donc, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'éviter quand tu crées des campagnes, de qu'un joueur embarque avec un nouveau personnage au milieu d'une campagne?
Oui, mais ça, c'est pour vraiment différentes raisons, là. Mais la raison principale, c'est juste que les joueurs, ils ont buildé ce genre de relation-là entre les personnages dans la partie. Donc, de briser ça puis de remplacer un personnage par quelqu'un d'autre, c'est un petit peu bizarre. C'est comme si vous avez tout le monde a un petit groupe d'amis. Si vous en avez pas, ben c'est triste, je m'excuse là. Tout le monde a un groupe d'amis, tu sais. Tout le monde a un groupe d'amis. Puis imaginez un de vos amis, ben il décède. C'est fucking dramatique. Fait que s'il décède, puis soudainement il y a un autre ami qui se ramasse dans le groupe d'amis. C'est pas qu'il est pas là pour remplacer, clairement, mais ça reste que, surtout si vous êtes un groupe d'amis qui est tête puis qui est tout le temps ensemble, c'est un peu bizarre. On va faire des références à cette personne-là qui est décédée, puis lui, il a aucune idée de quoi qu'on parle, t'sais. Mais là, c'est encore plus awkward dans une partie de D&D parce que le joueur, il sait de quoi que vous parlez, mais le personnage, non. Fait que c'est juste étrange. C'est juste, ça brise la dynamique des fois.
OK. Fait que t'es
Ouais.
mieux que les joueurs puissent rester vivants.
Oui, idéalement, oui.
Et là,
Qu'est-ce que je devrais faire? C'est s'il y en a un qui meurt, ben ils meurent tous, puis on recommence tous. Et tous des nouveaux personnages. Comme ça, là, nouvelle dynamique.
t'as
Yay!
voulu mourir, ben t'as
Ouais.
tué toutes les autres.
Voilà, ça règle le problème.
Mais là, tu viens de dire que c'était quand même ça ta partie préférée, de prévoir les différentes choses, de prévoir des branches, de prévoir tout ça.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes vraiment moins ou que pas du tout quand tu crées une campagne?
Je pense qu'est-ce que j'aime pas faire dans. Non, il n'y a pas vraiment quelque chose que j'aime pas faire dans une campagne. Je peux dire, il y a quelque chose que je fais. Il y a des moments où que je vais travailler sur une campagne, puis je vais pas aimer ça. Un exemple, c'est, admettons, je sais exactement où que je veux que la campagne se dirige.
Oui.
Puis pour que ça aille là, il faut que je fasse plein d'autres parties qui amènent à ça, mais les autres parties sont comme juste moins intéressantes que là où je veux que ça aille. Un exemple, je vais prendre. C'est comme si, imaginez genre un jeu vidéo. OK. Je vais le comparer à un jeu vidéo, again. Ou non, on va parler de télésérie parce que ça va être plus clair. Fait que, mettons, j'ai une télésérie. On
OK.
aime la télésérie saison 1. Elle est bonne. Après ça, on arrive à la télésérie saison 2. Elle est un petit peu. Elle est pas mauvaise, elle est juste différente, right? Mais elle est vraiment juste là pour qu'on arrive à la saison 3, là où c'est malade mental. Comme tout ce qui se passe en saison 3, épisode par épisode, c'est excitant, c'est riche. Ben, c'est le saison 2 qui me gosse. Puis ça arrive des fois quand je fais des campagnes ou que je suis comme en train de faire des quests que même moi, je suis pas vraiment tant impliqué que ça, mais c'est important. À ce que ça amène à qu'est-ce qui va arriver après, qui va être vraiment cool.
C'est comme t'es forcé de travailler sur quelque chose de moins excitant pour arriver à ce qui va être plus excitant.
Oui, puis tu sais, des fois, ça peut. C'est pas comme si je peux décider que ben je vais rendre ça le fun. J'essaie le mieux que je peux, mais des fois, c'est juste la logique même que certaines choses se passent. Un exemple, c'est que vous êtes pogné dans une prison à cause que vous avez fait certaines situations avant, right? Ben, moi, perso, je trippe pas sur les prisons. Fait que j'aime pas le système de la prison, puis je trouve ça plate avoir à jouer des gardes, puis jouer d'autres prisonniers, puis faire toutes ces affaires-là qui se passent dans la prison, juste pour arriver au prison break, là où ça va être vraiment intéressant. You know what I mean?
Fait que tout qu'est-ce qui va amener au present break, c'est là que t'es comme, ah, oh, faut que je fasse tout ça, genre.
Ouais, c'est comme, tu sais, je pourrais pas juste le skipper, ça ferait pas de sens.
OK.
C'est pas quelque chose que je peux faire.
Genre, ça fait 30 jours que vous êtes en prison, prison break time!
Ouais, c'est ça, c'est comme non, faut qu'on juge qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais souvent, 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 quand ça fait ça, c'est des situations que je m'attendais pas qui arrivent, qui vous amènent ça, d'où une prison, par exemple.
Donc, c'est des situations où tu as été un peu forcé, entre parenthèses, à être dedans par justement la réaction des joueurs ou ce que les joueurs ou les dés qui ont mal lancé ou des choses comme ça.
Oui, exactement, c'est ça. Tu sais, puis je pourrais éviter ces situations-là encore, comme je l'ai dit, mais ça ferait pas de sens. T'sais, des fois, c'est pas tant de faire quelque chose de kill fun, mais autant de faire quelque chose qui fait amener l'histoire quelque part, t'sais.
Quelque chose de plus organique.
Ouais, exactement. Mais ça, c'est la partie que j'aime moins des campagnes, on pourrait dire.
Et dans ta création de campagne, où est-ce qu'elle va l'importance des dés?
Ça, c'est très intéressant. Moi, je dirais que c'est très important. Un exemple, encore, je ramenais la partie que je me suis inspirée de Marvel. J'avais une campagne initiale, puis c'est les dés qui ont fait que j'ai changé de campagne entièrement.
OK.
C'est des dés que tu as roulés, en fait. Parce qu'on a un système, dans le fond, que mon frère a créé à l'aide de Kina, j'assume. Puis dans ce système-là, c'est comme une centaine d'événements random qui peuvent se passer à travers la journée. Fait que, tu sais, à un moment donné, vous allez être. Vous faites votre personnage, vous promenez, puis etc. Puis à un certain moment donné, si j'ai pas d'inspiration, je vous dis, OK, roulez un dessin juste pour avoir une situation random, puis amener quelque chose dans. Tu sais, faire une petite mini-quête, dans le fond, une side quest, on pourrait dire. Puis c'était une mini-quête que tu as été. Tu t'es fait sponsor par un autre personnage qui est très, très important dans le monde de Marvel,
C'est vrai.
qui a causé que ça a débuté une genre d'organisation et un groupe de super-héros d'où toi et quelques autres personnages non jouables étaient responsables. Puis ça a changé entièrement la campagne, là. C'était pas du tout là où ça s'en allait. C'était
Ouais,
pas censé être autant de personnages ensemble.
on est passé d'un petit groupe qui veut sauver le monde à ouh, on a une corporation de super-héros.
Wow, le petit groupe qui veut sauver New York spécifiquement.
Ouais, c'est New York, mon Dieu. Je m'excuse, ça l'a fini dans l'espace.
Oui, en effet, mais ça c'est toutes les Marvel. Si ça finit pas dans l'espace, c'est pas vraiment un comic book Marvel.
Ben moi, je connais beaucoup de films Marvel qui finissent pas dans l'espace. Mais donc l'importance des dés, ça peut changer complètement une campagne à cause d'un petit événement, à cause d'un dé mal roulé, un dé bien roulé. Fait qu'il faut quand même que quand tu gères ta campagne, il faut que tu aies un système de dés qui fonctionne bien. Il y a des gens qui vont utiliser le système de Donjon Dragon, Warhammer. On en parlait là, avec Sébastien, là. Il y a même Sailor Moon, il y a même Power Rangers, Alien. Il y a des systèmes de dés vraiment intéressants. Alien, vraiment intéressant, le système de dés de tu lances des dés pour savoir à quel point tu as peur. Là. Ça, je trouve ça vraiment
Ouais,
cool.
ça j'aime beaucoup, je vais reprendre ça en fait.
Ah oui, tu vas reprendre. Ça,
Ouais.
j'aimais vraiment ça. Mais d'avoir un système qui est cohérent avec ta campagne aussi. Fait que vu que toi, tu ne suis pas D&D, que tu ne suis pas Warhammer, il faut que tu crées ce système-là qui va être en rapport avec ta campagne d'une certaine façon, là.
Ouais, exactement. Comme par exemple, la prochaine campagne que je suis en train de travailler dessus a beaucoup de cybernétique. Donc des parties que vous pouvez vous implanter dans le corps qui vous donnent des habilités additionnelles, des implants, des nouveaux bras, des nouvelles jambes, des nouveaux yeux, tout ça. Puis un des exemples, c'est qu'il va, dépendamment combien de cybernétiques vous avez dans le corps, il va falloir que vous roulez un dé pour savoir si vous ne rejetez pas ces parties-là ou vous ne vous transformez pas en genre de berserk, en dégénéré au
À
combat à coup. Ouais, exactement.
cause de
Un
la
peu.
douleur ou quelque chose comme ça, là.
Ouais, un peu à la Cyberpunk. C'est très inspiré de Cyberpunk 2077.
On vient de parler de l'importance des dés. On a parlé de ce que tu aimais moins aussi. À ce moment-là, tu crées une campagne, tu crées tout ça. Et qu'est-ce qui arrive, toi, en tant que master, si à un moment donné, tu es dans ta campagne et tu es comme, ah oh, non, cette campagne-là ne marche pas. Ou je suis pas excité par cette campagne-là, ou ça marche vraiment pas, là. Mon idée de base marchait vraiment pas. Peu importe comment tu essaies de la modifier, ça fonctionne pas. Comment est-ce que tu fixes cette situation-là en tant que master?
Wow, c'est une super bonne question. C'est vraiment quelque chose avec laquelle j'ai de la misère, on pourrait dire. La plupart des mondes que je vais créer, la plupart je vais laisser ça au monde. La plupart des mondes que je vais créer dans ma tête pour que les joueurs jouent dedans sont des beaux mondes que je veux pas détruire. J'aime le monde. Là que la campagne a tendance à faire moins d'aller moins à de certains endroits, que ça avance pas de façon comme je le veux, c'est souvent à cause que les personnages dans le monde ne sont pas assez développés. Donc, je connecte pas avec les joueurs, je connecte pas avec les personnages que moi-même je joue, et de façon subséquente, les joueurs ne connectent pas autant avec les personnages qui sont dans le monde. Donc, la campagne n'a pas autant de, tu sais, qu'est-ce que j'expliquais ou que vous ressentez quelque chose, vos personnages ressentent quelque chose, ce qui fait que ça avance la campagne de façon organique parce que vous êtes impliqué, mais c'est pas là. Donc, c'est souvent, tu sais, une personne qui aurait peut-être pas autant d'expérience aura tendance à dire que la raison pour laquelle une campagne ne réussit pas est à cause des joueurs. Mais c'est pas tout à fait vrai. Là que la campagne va faire, c'est à cause que le maître de jeu est pas capable de connecter avec ses joueurs. C'est sûr, tu sais, ça peut arriver n'importe quand. Là, on peut avoir un joueur qui est vraiment juste avec aucune bonne intention, commence une partie avec l'intention de juste se défouler, pas être à l'intérieur de son personnage, mais pas être en connexion avec son personnage en tous les cas. L'intérieur, c'est un petit peu kinky, là, mais en tout cas. Mais tu sais, pas en connexion avec son personnage, puis juste foutre la merde parce que c'est drôle, puis c'est ça qu'on fait dans une game de Donjons et Dragons, par exemple. Mais souvent, si une campagne s'en va de nulle part, puis c'est une campagne que tu as bien travaillée, puis que les personnages, les joueurs sont quand même impliqués, c'est quelque chose, c'est une déconnexion entre le maître de jeu et les personnages que le maître de jeu joue. Parce que veux, veux pas, je joue aussi quand je suis avec vous. C'est juste pas tout à fait la même dynamique, c'est tout.
Mais
Fait que pour
à
régler
quel...
ça,
Oui, pour... C'est ça, je m'en allais poser pour
ouais,
régler
c'est
ça.
ça. Pour régler ça, ça demande soit du temps à travailler cette partie-là. Ce qui est difficile, si on a déjà commencé, c'est si on est déjà en train de le faire, c'est très difficile de pouvoir faire juste comme, ah, ok, ben, guys, on va faire une pause, puis là, ben, comme nécessairement, pas nécessairement une pause là, comme pas nécessairement une pause durant une session, mais je dis comme on va en place de faire une nouvelle session la semaine prochaine, je vais avoir besoin de temps pour travailler sur mes personnages. C'est vraiment de se dire comme, ok, je m'assois puis je fais ça. T'sais? C'est plate à faire une fois qu'on a commencé le jeu parce qu'on veut jouer. On est tous excités à jouer. T'sais? Mais c'est quelque chose qu'il faut être fait. Puis le meilleur moment de le faire, c'est avant de commencer à jouer parce qu'on aura quand même un bon historique qui est déjà préfait, puis ça va être facile rendu là. Un exemple, par exemple, ça va être un peu comme je te ramène à la prison, la
Oui.
situation de la prison. C'est quelque chose que j'aurais pas pu planifier avant même de faire la partie. Pour moi, c'est pas mon. Je suis pas en train de faire le background story de tous les personnages qui vous allez potentiellement rencontrer. Je fais juste ceux que je pense est important pour la campagne. Mais si la campagne s'en va dans une prison, par exemple, j'ai pas pensé à ça. Fait que là, faut que la meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps de reculer, puis de travailler sur chacune des personnes que vous allez rencontrer dans la prison avant même qu'on ait la prochaine session. Et là, soudainement, ça devient super excitant, puis vraiment le fun, puis je reprends le dessus de la campagne. Ou des fois, on peut juste pas vraiment faire ça si on est trop lazy, puis faire qu'on passe à travers, c'est un petit peu rough. Mais le prochain chapitre, c'est vraiment bon. C'est vraiment ça. C'est de prendre du temps pour travailler sur les personnages dans la campagne.
Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un moment où une campagne ne peut pas être rescapée? Que, OK, non, ça marche juste pas, cette campagne-là. On peut pas l'améliorer, on peut pas rien faire. Ça marche juste pas.
C'est difficile à dire. Je pense que les seules situations que j'ai vu ça arriver, c'est quand les joueurs étaient contre d'autres joueurs.
OK.
Là, c'était difficile à rescaper parce que je peux pas contrôler les actions de mes autres joueurs. T'sais, ça devient ou que là, les joueurs non jouables doivent prendre des parties. Là, la campagne principale ou que vous avez un gros méchant prend le côté pendant que vous dealez avec votre animosité entre joueurs. T'sais. Puis des fois, ça peut même amener une mauvaise ambiance entre les joueurs eux-mêmes. Pas entre les personnages nécessairement, mais entre les joueurs eux-mêmes. Ben, clairement, entre les personnages, là, mais entre les joueurs eux-mêmes, ce qui rend les parties moins faciles à jouer, les joueurs moins impliqués autant. Puis c'est normal, tu sais, on veut tous protéger nos émotions, fait qu'on va se séparer cette situation-là entre joueurs et personnages. Mais ça reste que ça, c'est quelque chose qui est dur à rescaper. C'est pas impossible, c'est faisable, ça prend du temps, Puis une fois qu'on passe au travers, si c'est réglé de façon équitable, tout est correct. Mais généralement, comme n'importe quel combat ou n'importe quelle guerre, il y a un gagnant puis un perdant. Puis des fois, il y a deux perdants aussi. Souvent, il y a deux perdants.
Moi, il y a une affaire que j'ai toujours rêvé de faire dans une game, mais c'est au moment où je sais là qu'on est dans la finale de la game là. Tu sais, la game elle s'est jouée pendant on sait pas trop combien de temps tout dépendamment, puis on est dans la finale là que il reste peut-être deux trois games à jouer genre pour que la game soit finie complètement. Il y a toujours une partie de moi qui fait comme oh, j'aimerais ça que mon personnage devienne un traître live là. Mais ça, c'est pas mon personnage qui parle. Ça, c'est David qui est comme, il me semble que genre,
Ben,
je suis comme.
non, mais c'est vrai que je pense que tout le monde a ce genre de puis je parle même pas dans les games, là, je parle dans la vie de tous les jours, là, tout le monde a ce genre d'idéologie de cette romantisation d'un vilain qu'on voudrait être, là, tu sais. On voit des films, puis on est comme. Souvent, on veut pas être le héros, on veut être le méchant parce qu'il est fort, il est sans rancune, il s'en fout de tout, il fait ce qu'il veut. Fait que ça a l'air fun, ça a l'air impressionnant. Mais ouais, non, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est souvent réaliste.
Et il me reste deux petites questions à poser en rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport autres que les questions que je t'ai posées que tu penses qu'il est important de mentionner au niveau de la création d'une campagne?
Tu sais, un exemple, c'est que je pense que j'ai mentionné plus tôt qu'il y avait des campagnes qu'on peut pogner dans D&D, dans Warhammer 40K, puis etc., qui sont toutes déjà préfaites. Donc, ils disent exactement où ça va aller, puis etc. C'est un peu un railroading de personnages. Fait que, mettons, le personnage se rencontre en taverne, ben, il dit vraiment scène par scène qu'est-ce qui va se passer. Là, il y a eu un meurtre dans la taverne. Puis la meurtre, c'était quelque chose que l'un des personnages devait faire. Puis après ça, ils doivent aller quelque part d'autre pour aller régler ce meurtre-là. Puis après ça, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Puis là, ça connecte avec l'autre personnage, parce que les personnages sont aussi pré-écrits pour les joueurs. Ce qui rend, tu sais, c'est bien, puis c'est le fun, c'est un peu comme, ça me rappelle les livres, les histoires dont vous êtes le héros. Right? Puis, il n'y a rien de mal à ça. Puis, on peut toujours rajouter des choses comme ça, dans le sens où qu'on peut toujours rajouter des choses personnalisées. Ça reste que ça reste pris dans ces campagnes-là. Si vous décidez de faire votre propre campagne, gênez-vous pas de vous inspirer de choses qui existent déjà, de histoires qui existent déjà, puis de téléséries, de campagnes, de quêtes qui se passent dans des jeux vidéo, whatever. Inspirez-vous de quelque chose qui existe déjà, puis rajoutez des embellissements dedans, basés sur vous-même ou basés même sur les personnages qui vont jouer à l'intérieur. Puis très rapidement, vous allez voir plus que vous en faites, plus que vous rajoutez de vous-même, plus que vous allez voir que ça va pas du tout dans la même direction.
C'est
La raison est que.
un peu comme prendre le squelette de quelque chose qui existe déjà, mais tout qu'est-ce que tu rajoutes sur le squelette, c'est de toi. Fait que le résultat final, au final, c'est autre chose complètement.
Oui, parce que ça reste qu'une histoire de n'importe quelle histoire de jeux vidéo, de films, n'importe quelle histoire dont il y a une quête est sensiblement la même. Je veux dire, on regarde Harry Potter puis on regarde Star Wars, c'est sensiblement les mêmes histoires. Tout ce qui est à l'intérieur. Pourtant, ce n'est pas les mêmes fans, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont aller voir ces films-là, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont s'attacher à ces personnages-là parce que c'est personnalisé pour quelque chose d'autre. Fait que vous pouvez prendre n'importe quelle histoire, ça revient quand même au même. Tant que vous rajoutez les choses qui faites de vous, puis là, soudainement, ce n'est pas vous du tout. Là où que vous pouvez faire une campagne de absolute scratch, de complètement, ou que vous avez vraiment pas d'inspiration, ça devient un concept qui peut être vraiment intéressant, mais dur à suivre pour les joueurs si c'est pas expressif. Un exemple, si on va faire, je vais prendre la partie que j'ai fait avec Luc, je reprends Luc, où Luc, il m'a demandé de faire que son personnage avait de l'amnésie. Quelque chose qu'on a fait tellement souvent dans le monde, tu sais, dans les games de D&D, tu sais. Mon personnage n'a pas de parents, puis il fait de l'amnésie, puis il est comme ça, tu sais. Il a une épée, puis il y a des loups, puis il est lonesome, puis il est fort, tu sais. On connaît le stéréotype de ce genre de personnage-là. Mais il est là pour aider. Ça, c'est ça.
Ouais.
Il va être cool, puis il
Mais
va
il est
être là pour
fin,
aider.
là.
Ouais, c'est ça. Il est juste cool, tu sais, mais il est là pour aider tout le monde, tu sais. Mais après ça, il m'a dit, je veux que mon personnage a de l'amnésie. Puis il m'a montré, il a été conceptuel, il m'a montré une image de là où il veut que son personnage se réveille. Et là, soudainement, mon imagination a explosé dans toutes les directions. Puis j'ai fait d'avance toute l'historique de quoi que son personnage est arrivé afin d'arriver à ce moment-là. Puis après ça, c'est de laisser des détails, des crumbs, des mémoires qu'il ne se rappelle pas tout à fait. Puis ça devient une histoire complètement différente. Sa campagne à lui était complètement unique. Puis elle était faite d'un concept. Et ça, c'est le fun. C'est vraiment intéressant. C'est pas l'histoire qu'on comprendrait, qu'on connaisserait, c'est qu'on voit tous les jours dans les jeux vidéo, puis etc. Ça l'a passé à des péripéties très étranges et intéressantes.
Et à partir du moment où tu commences à créer ta campagne hors jeu, combien de temps tu mets environ pour créer ta campagne et combien de temps que tu mets entre chaque game?
So, ça dépend. Généralement, le moins de temps que je mets sur une campagne, le moins de fun que j'ai dans cette campagne-là. Je dirais les deux dernières parties que j'ai faites, que j'ai eu énormément de fun. C'était vraiment des campagnes que ça m'a pris des mois ou presque des années, ben une année, à avoir préparé en avance. Puis c'est quelque chose qui se passe en ce moment. La prochaine partie que je suis en train de travailler dessus, ça fait des mois que je suis sur ça, là. Ça fait des mois. Puis c'est un concept que j'avais depuis, ça fait des années. Puis c'est juste maintenant que je. Ben, maintenant, ça fait quelques mois que je suis en train de la mettre en évidence. Fait que ça va dépendre. Mais ça m'est arrivé de faire des campagnes, tu sais, où que j'ai travaillé dessus, genre la journée passée. Puis c'était bon. C'était pas autant de fun, mais c'était bon. C'était quand même bon. Fait que ça va vraiment dépendre. Pour moi, c'est plus de temps, plus de fun.
Fait que dans le fond, quand tu mets moins de temps, c'était peut-être plus pour des one-shots ou des choses comme ça, ou...
Moi, en général, j'ai la misère avec les one-shots. Je suis pas capable d'en
Ouais.
faire. Je suis pas capable. Fait que du moment que ça devient un tantinet intéressant, je suis comme, ah, oh, on va explorer ce mystère-là pendant plusieurs parties. Puis...
OK.
Fait que je suis pas très bon pour les one-shots à cause de ça.
Et ça serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut créer sa première campagne?
Ben, je pense que je l'ai mentionné plus tôt, hein, si je me trompe. Mais à part de me répéter, si vous avez vraiment une histoire que vous aimez, vous pouvez la recréer en forme. Tu sais, mettons, je vais écouter genre Downton Abbey, là, puis j'aime vraiment ça, là, ce qui se passe, là, le mystère, puis les conversations par-dessus du thé. Puis là, genre, je veux mettre ça, mais en game que les joueurs vont jouer, ben, je change les conversations avec du thé pour des combats magiques, là, puis ils se parlent en même temps, là, sont tous vraiment habillés fancy. Love that. Faites ça.
je pense que j'aimerais ça, une game que toute la game au complet, c'est juste des gens qui complotent en buvant du thé, mais il n'y a jamais rien qui arrive.
Ben honnêtement, c'est souvent ça, là, si tu y penses, tu sais. Fait que ça serait ça tout le long, tu sais. Juste des complots. Genre du Game of Thrones, mais juste les parties intéressantes.
Et écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Comme tu sais, j'aime beaucoup terminer mes podcasts par un conseil slash recommandation de la semaine. Est-ce que tu aurais un conseil slash recommandation de la semaine à faire à mes maladreuses?
Oui, absolument. Je vous conseille fortement d'aller voir le film Barbie si vous ne l'avez pas déjà écouté. Si vous êtes gêné puis vous dites non, c'est beaucoup trop rose et féminin, je peux pas aller écouter ce film-là, ça ne me représente pas. Fermez vos gueules puis allez-y. Ça vous représente tous. Ça représente l'humanité. S'il y avait un film que je devrais présenter aux extraterrestres, ça serait pas celui-là parce qu'il viendrait nous tuer toutes. Mais Mais ça serait quand même une bonne décision si on veut tous mourir. Fait que, allez l'écouter, c'est vraiment excellent, pour de vrai.
Écoute, moi, je vais suivre ta lancée et je vais recommander un film que j'ai écouté dernièrement, Renfield.
Oh
Écoute,
oui.
moi, normalement, je n'aime pas Nicolas Cage. Pour une fois, je trouve qu'il fonctionne dans un film. Son overjouage, son cabotinage fonctionne très bien dans ce film-là. J'ai ri, j'ai eu du plaisir. Il y a du gore à souhait. Le
Ah
film est puissant. Moi, je le recommande fortement. Allez voir ça. Donc, votre fin de semaine, c'est Barbie puis Renfield.
Oui.
Le meilleur de deux mondes, comme Mimi
Ex
Cyrus. Hein?
Exactement.
Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine alors qu'on apprend comment dire non à une entité extraterrestre qui nous amène dans son vaisseau parce qu'on est un teenager cool pour battre les forces de l'univers.
Power Rangers.
Ouais, c'était un clin d'œil aux
Ok,
Power Rangers.
ok. Mais pourquoi tu dirais non?
Hey, c'est de la job,
Ouais.
là.
La grosse maladresse.
Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy. Vous a été présenté par David Morancy.